D'abord, bon, bah, merci à Entre Revues d'avoir organisé cette réunion pour présenter notre démarche autour de la revue Fragment. Alors moi, je me présente rapidement, ça ne se fait pas de commencer par soi, mais puisque tu m'as donné la parole en premier, j'ai été assistant social puis postier, et je me suis intéressé à la littérature prolétarienne au cours des années 1970 grâce à un éditeur qui est Edmond Thomas, qui est un artisan imprimeur qui fait les éditions Plein Champ. Donc, Giuseppe, si tu veux te présenter.
Oui, bien sûr. Giuseppe Lucatelli. Donc, je suis auteur, on peut dire prolétarien. En tous les cas, je suis ouvrier, syndicaliste, et je suis chroniqueur pour la revue.
Françoise Ragon.
Je me présente, donc je suis Françoise Ragon, l'épouse de Michel Ragon pendant 53 ans, et j'essaie de développer son œuvre que je trouve assez unique.
André Derval, donc celui qui était à gauche de Yannick tout à l'heure. Donc j'ai été bibliothécaire, archiviste, responsable des réseaux documentaires et des fonds des métiers du livre, puis directeur des collections à l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine jusqu'en 2020.
Donc on va un peu essayer de présenter la structure assez large et assez large de l'émission qu'on a divisé en trois parties, hein. Une présentation un peu de la revue Fragment et de l'association qui est derrière, qui est le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale. Ensuite, on abordera l'année 2024 autour des initiatives qui ont été prises par rapport au centenaire de la naissance de Michel Ragon. Et sur ce point, Françoise Ragon et Giuseppe Lucatelli interviendront, dans le cadre du colloque notamment qu'on avait organisé. Et on devrait boucler, si tout se passe bien, par un entretien avec André Derval sur son ouvrage qui est quand même assez essentiel et fondamental, qui est paru début de l'année 2024. Et évidemment, il y aura sans doute un petit point s'il y a des questions dans la salle. Je pense que ça peut s'organiser. Alors, j'interviens assez 20-25 minutes à peu près par thématique, tout ça c'est de la théorie, mais on va essayer. On a créé le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale en janvier 2020, c'est-à-dire quelques semaines, pratiquement avant le décès de Michel Ragon, qui est décédé le 14 février 2020. Avec, on vient en général de mouvements syndicalistes ou libertaires, différentes personnes qui se sont fédérées, et puis d'autres se sont ajoutés progressivement, avec une idée, faire un travail avec un double objectif, en fait, montrer que la littérature prolétarienne, alors déjà que prolétarien, c'était pas un gros mot, mais que c'était un mot qu'on pouvait utiliser et que ça représentait toujours une réalité au XXIe siècle, et d'essayer de faire connaître à la fois des auteurs prolétariens d'hier, mais aussi de montrer dans la réalité concrète aujourd'hui, il y avait des gens d'en bas qui étaient ouvriers, qui étaient paysans, qui étaient employés, qui étaient enseignants, qui prenaient la plume pour aborder leurs conditions de vie, leurs conditions de travail et parfois leurs conditions de survie. On aura l'occasion d'y revenir dans le futur numéro de la revue. Et donc, en créant cette association, donc on est une association 1901, avec un certain nombre d'adhérents, plus d'une cinquantaine, malgré le Covid qui nous a un peu bloqués au début de nos activités. Et on a publié la revue Fragment, qui est diffusée. Alors, toute notre démarche est basée, si des gens veulent me compléter, hein, pas hésiter, hein, ou m'interrompre, il n'y a pas de souci. C'est une démarche qu'on a essayé d'être autogestionnaire de A à Z, c'est-à-dire qu'on reçoit des textes, on en écrit, il y a un travail de relecture, il y a le travail de maquettage, il y a la diffusion, tout est fait de manière autogérée, on pourrait dire, de la revue finie au lecteur. On travaille donc sans diffuseur-distributeur, mais à partir de notre réseau, c'est-à-dire qu'on a créé à partir des fois d'une personne dans une région, eh bien, il y a une personne qui fait l'intermédiaire au niveau d'une librairie qui nous semble intéressant. Et en plus, ne pas passer par un diffuseur, ça nous permet de faire une remise plus importante à la librairie. Et on se fait connaître par ce biais-là, donc des présences en librairie, à participation à des salons, tant en région parisienne que hors de la région parisienne. Je pense au salon de Vendôme, où on a eu plusieurs années de suite d'une bonne fréquentation, en tout cas en qualité pour cette dernière année. Et on a fait aussi les salons qu'organise Entre Revues, qui nous ont permis aussi, là aussi, de nouer des contacts. Et on a en parallèle tout un réseau, en dehors de la revue, ce qu'on appelle des missives, qui font le lien de manière régulière, une fois ou deux par an, entre les abonnés d'une part, et les adhérents, sachant que la plupart des adhérents sont abonnés. Voilà. Alors, l'axe, hein, c'était la littérature prolétarienne. Pourquoi ? Bon, ben, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Hein. J'ai cité tout à l'heure Edmond Thomas, qui, depuis les années 70, avec dans les éditions Plein Champ, a toute une partie de ces éditions qui sont consacrées à la littérature prolétarienne, qui renvoie au travail qui a été fait historiquement, on va dire, par Henri Poulaille dans les années 1930, puisque c'est en 1931 qu'est publié ce qui est considéré comme un manifeste, Le Nouvel Âge littéraire, où Poulaille, hein, je vais essayer de faire très court, Poulaille essaye de dire qu'il y a une littérature qui est fondée sur l'authenticité de classe, des gens qui sont d'en bas, qui n'ont peut-être pas toujours le style, mais qui ont un contenu à diffuser. Et il essaye de faire vivre cette réalité, pas d'ailleurs d'un point de vue, comme souvent on le réduit, francophone, mais d'un point de vue international. Hein, il a des contacts dans différents pays. Et dans ses revues, il y a plusieurs écrivains britanniques, des pays de l'Est, des États-Unis, du Canada, qui s'expriment. Et il va essayer de se démarquer par rapport à la littérature classique. Mais contrairement à ce qui est dit parfois ici et là, il n'y a pas une opposition chez Henri Poulaille, hein, entre la littérature prolétarienne et la littérature classique. Simplement, c'est un droit à l'existence qu'il veut faire reconnaître. Et il sera bien placé par rapport à ça. Hein. Je rappelle, de manière très, très rapide, Henri Poulaille, il est orphelin à 14 ans. Son père est charpentier, syndicaliste, donc il va lire un peu en cachette des ouvrages du syndicat et des livres que son père planque dans un tiroir. Et sa mère est canneuse de chaises, et ils vont mourir à 6 mois d'intervalle. Donc lui, il va être livré à lui-même à 14 ans. Son frère et sa sœur vont être placés. Et ensuite, en 1924, il se retrouve directeur service de presse chez Grasset, ce qui va être une position quand même relativement stratégique. C'est un autodidacte pur, comme Michel Dragon. Ce sont des gens qui se sont faits eux-mêmes en partant d'un milieu social souvent défavorisé. Donc nous, on s'est situé un peu par rapport à ce travail que faisait à l'époque Poulaille. Et notre objectif, c'est de faire connaître des auteurs et des autrices, parce qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont témoigné et qui ont publié des livres très importants. On parle de Marguerite Audoux, bien sûr, avec Marie-Claire, mais il y a aussi Ningdoff, je ne sais jamais si on dit Ningdoff ou Ningdoff, donc je vais dire les deux, et qui a connu la misère, la prostitution par sa famille, hein, qui est néerlandaise, mais qui va écrire en français. Donc il y a ce travail qui va être fait, notamment, c'est le premier qui va publier Jean Giono, hein, Henri Poulaille, aux éditions Grasset. Le livre, c'est Colline. Après, il va un peu s'en éloigner, c'est Giono qui va s'éloigner de la littérature prolétarienne, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vont... Poulaille, il aura un rôle stratégique. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un rôle dans la littérature tout court, qui vont passer par le filtre Poulaille, au départ, en tout cas, pour se faire connaître dans Paris. Hein. Je pense à Jean Paulhan, par exemple, dans les archives du Centre de littérature prolétarienne de Cachan, il y a un certain nombre de documents. Michel Dragon, quand il est arrivé à Paris aussi, a eu des contacts importants avec Henri Poulaille. Et donc, nous, on a dit, voilà, on va faire ce travail de mémoire, mais on refuse... à la différence d'un certain nombre d'universitaires, pas tous, mais d'un certain nombre, qui considèrent que il y a des auteurs prolétariens dont on doit s'occuper, à une condition, c'est qu'ils soient morts. Nous, on pense, et enfin ça, c'est, je ne dis pas tous les universitaires. On travaille avec, donc au colloque qu'on a fait, il y a des universitaires qui ont une approche très concrète et qui ont aussi le souci dans leur écriture et dans leur expression d'être compris par des gens qui n'ont pas un bac plus 12, etc. Ça, ça nous semble important. Mais il nous a semblé utile de montrer, et je pense que dans la revue, on a vraiment commencé jusqu'au numéro 9 à le démontrer. On a fait connaître François Lebert, qui est un ouvrier de l'automobile, qui un autodidacte, lui, pur, même pas engagé syndicalement, 42 ans, si je suis trop long, faut me le dire, quelqu'un pourrait surveiller l'horloge. Mais à 42 ans, il a une maladie professionnelle, il se met à bouquiner, il se met à dessiner aussi, parce qu'en même temps, il fait un travail pratiquement digne d'un affichiste. On l'a fait connaître, édité, et voilà. Et il y a plein de... Bon, je ne vais pas tous les Sandrine Davin, qui est assistante médicale. Il y a eu pas mal de gens de La Poste, hein, des facteurs, qui ont, je pense à Tessie Rome, qui est décédé en juillet dernier, qui a montré... Il a été à la fois berger, photographe, facteur, voilà, bon, et d'autres, et des contacts intéressants, des femmes aussi, et aussi des personnes d'origine étrangère. C'est un secteur qu'il faut qu'on développe, hein, qu'on améliore, pour faire ce lien avec des auteurs et des autrices. Il y a déjà des contacts de prix avec l'Angleterre, avec l'Italie, pour faire connaître des auteurs, parce que c'est une littérature qui n'est pas uniquement francophone. Alors, Henri Poulaille, Michel Ragon, qui va prendre la relève, qui va écrire ses ouvrages sur l'histoire de la littérature prolétarienne, hein, plus deux fois réédité, si ma mémoire est bonne, hein, trois fois, vous voyez, j'en oublie. Et aussi, il y a dans la revue des contributions de Philippe Geneste, qui est professeur du côté de Bordeaux, et qui a entamé un recensement. Alors, on le publie sous forme de feuilleton, des hommes et des femmes d'en bas qui écrivent depuis les années 1970. Et ce faisant, ça prolonge un peu tout ce travail qui a été fait de manière antérieure et qui a été fait aussi par, j'ai oublié, Thierry Maricourt, hein, bien sûr, qui a travaillé avec notamment son dictionnaire des auteurs libertaires, si ma mémoire est bonne, hein, qui a fait un vrai travail de recensement. Et Philippe Geneste, je pense, complète et cette étude, elle va de 1970 à aujourd'hui, avec tous les secteurs qui sont abordés, que ce soit le bâtiment, la restauration, des gens qu'on appelle parfois les petites mains, c'est un terme que personnellement je n'ai jamais compris, mais bon. Voilà, aussi une approche aussi internationale, j'ai oublié de le dire, avec notamment des textes, il y a des études dans la revue, hein. Je pense à une étude de Thierry Maricourt sur Stig Dagerman, hein, qui est un auteur prolétarien suédois qui s'est suicidé à 31 ans, un travail qu'avait fait Jérôme Radvan, qui est malheureusement décédé, autour du berger Pierre Pellet. Hein, on a des études un peu comme ça qui sont ciblées. Et un texte, une approche de Thierry Périsset, qui est professeur, autour des écrits de Nengdoff. Voilà, on essaye de faire des dossiers pour... là, je résume de manière très, très rapide. Voilà, et en prévision, donc on a le numéro 11... directement numéro 11, où il y aura un dossier sur l'auteur roumain Panaïs Istrati, qu'on travaille un peu. C'est plusieurs approches, à la fois des contributions de chez nous, mais aussi avec Jacques Beaujard, par exemple, des éditions de l'Échappée. Il y a tout ce travail-là. Voilà, ça c'est pour la revue. Je termine en deux secondes pour dire qu'on a donc créé un secteur édition avec, qu'on a appelé les éditions pour Litz, avec deux ouvrages, le troisième est sous presse, hein, vraiment au sens propre, puisque mon attirail a été donné hier. Le premier, ça a été François Lebert, qui s'intitule « Ligne de front ». Et c'est des textes, de la poésie, et beaucoup de dessins qui percutent pas mal, qui interpellent à partir de sa pratique d'ouvrier. Le deuxième a été la réédition du livre de Michel Ragon « Nous sommes 17 sous une lune très petite ». qui avait été publié chez Albin Michel fin 1968. Et on remercie Françoise pour la possibilité d'avoir réédité cet ouvrage. Et le troisième qui est sous presse, qui s'intitule « Des agents des PTT prennent la plume, mémoire partagée », et on balaye sur un siècle, puisque Poulaille avait déjà publié des gens qui travaillaient à la poste sur les ambulants ou sur les facteurs dans les années 1931. Donc on a repris une partie de ces textes-là, actualisés par des personnes qui ont connu les PTT dans le monde contemporain, on va dire. Voilà. Là, j'en ai fini pour la présentation. Et j'ai oublié encore, dernier point, une émission de radio qui s'appelle « Et pourtant, elle existe, cette littérature ». C'est sur Radio Libertaire 89.4. C'est chaque troisième jeudi de 18h30, de 16h30, pardon, à 18h30. Et il y a une émission en ce moment qui est en train de... qui s'est achevée, où on a fait un entretien enregistré avec André Derval. Alors maintenant, l'année 2024, c'est l'année du centenaire de la naissance de Michel Ragon, donc je passe la parole à Françoise.
Merci Raphaël. Michel était un grand dévoreur de revues. Nous sommes ici dans un endroit de revues. Il m'a dit souvent y trouver des tas de renseignements pittoresques, peut-être anecdotiques, mais qui étaient un déclencheur pour ses romans, une étincelle qui nourrissait son imagination. Si on pense au mouchoir rouge de Cholet, il a avalé maintes petites revues provinciales pour recréer l'ethnographie de toute une région. Et c'est dans ces petites revues qu'il a trouvé. De même pour Ma sœur aux yeux d'Asie, sans être jamais allé au Vietnam, il a su, d'après les dires des spécialistes, recréer les rues de Saïgon, recréer une vie réelle. Il partait le matin affamé à la BNF et revenait heureux avec ses trouvailles écrites sur ses tout petits bouts de papier. Michel a évidemment écrit aussi, pas seulement lu, dans d'innombrables revues. André Derval, à ma droite, a bien mis tout en note dans sa biographie de Michel Ragon. Et je veux signaler le travail remarquable de Patrick Verdun, qui en bibliographe recense tous les articles de Michel depuis 1946, et il les a pratiquement tous dans sa bibliothèque. Un magnifique travail. Puis Michel sera aussi rédacteur en chef de la revue Les Cahiers du Peuple, revue qui avait comme adresse, une magnifique revue qui était publiée chez Grasset, évidemment grâce à Poulaille, et qui était 12 rue des Saints-Pères, c'était l'adresse de Michel, qui était à l'époque une minuscule chambre de bonne, vraiment aux 12 rue des Saints-Pères, il fallait monter les 6 étages à pied. Et c'est assez cocasse comme adresse quand on revoit les photos et la belle couverture des Cahiers du Peuple, c'est assez étonnant. À propos de cette littérature prolétarienne que Michel découvre à Nantes, il est très jeune, il a 14 ans, 15 ans, il murmure « Des ouvriers, des paysans écrivaient des livres, pourquoi pas moi ?» Et aussi plus tard, il dira de cette littérature « Un coin très dur, un peu douloureux, et aussi « Ne trahis pas ». Il écrit pour de nombreuses revues d'art, comme Simès, Jardin des Arts, XXe siècle, dans des revues d'architecture, telles Architecture d'aujourd'hui, et je vais le citer, car ça rejoint la littérature prolétarienne. Michel dit « L'architecture qui est à la fois un art et une science qui conjugue l'esthétique et le politique nous permet d'unir nos préoccupations sociales à nos préoccupations esthétiques ». Je ne peux m'empêcher de citer encore Michel, tout jeune, qui écrit au dos de son premier manuscrit « Les écrivains du peuple ». Ça n'a jamais été publié, ce que je vais dire. « Moi qui n'ai à vous offrir qu'un acte d'amour envers les écrivains de ma race et écrit avec la seule intention que vous, mes camarades, non initiés à la littérature du peuple, à notre littérature, puissiez trouver un guide pour vos lectures, une assurance de notre grandeur et de notre force. » Le jeune homme qui, en 1947, écrit cela, n'a pas imaginé un instant qu'une revue allait organiser un très beau colloque et en publier les communications. Et c'est pour moi un immense bonheur. Je veux remercier tous les militants et bénévoles qui ont vraiment contribué à ce succès. Dans la revue, nous aurons un patchwork de l'énorme diversité des écrits de Michel et de sa pensée. Sarah Almatari nous parle de l'arbre de la connaissance, Thierry Maricourt de La rage de lire de son ami, Raphaël Romney de L'attitude de Michel en mai 68, et le biographe André Derval nous interroge sur les rapports de Michel à l'anarchisme de l'Unique. Je me souviens d'ailleurs de Robert Sabatier moquant Michel à ce sujet, mais gentiment, car lui aussi, il allait aux réunions de Armand. Et puis, il y aura l'art, grâce à mon voisin de gauche, la Vendée, l'amitié. Ce sera un bel éventail de cette pensée qui m'apparaît de plus en plus avec le recul, être une pensée de liberté et de refus de tout pouvoir, avec le souci d'une belle langue lisible pour tous. Engagement réussi, je crois. Je disais liberté. Je cite encore Michel. Revendiquer cette liberté des Vendéens en 93, comme il l'a fait dans tous ses livres vendéens, surtout dans la mémoire des vainqueurs, les mouchoirs de Cholet, en témoigner et témoigner aussi des libertaires face aux dictatures, qu'elles soient marxistes ou fascistes. La liberté aussi comme critique d'art. Quand il écrit dès 1948 en peinture l'acte révolutionnaire des peintres est d'aller au-delà de ce qui nous a été donné. La liberté aussi en architecture. Tenter d'ouvrir la porte de la modernité en architecture par une nouvelle clé, la prospective. Et je disais aussi refus du pouvoir. Michel a beaucoup réfléchi au pouvoir politique, mais aussi au pouvoir économique. Et il a dit dans des notes que j'ai retrouvées, l'intellectuel devrait toujours pouvoir être le fou du roi. La complicité avec le pouvoir, quel que soit le pouvoir, est une trahison de sa mission. Ce numéro de fragment, et tous les contributeurs diront tout cela mieux que moi, et je veux terminer avec André Derval qui écrit « Michel Ragon sut magnifier la souveraineté irréductible de l'individu, nécessairement hors du commun. »
Merci André.
Merci François.
Eh bien, Françoise, il évoquait que Michel Ragon s'est intéressé à l'art. Donc, le travail que j'ai effectué et que c'était un travail avec la complicité de Michel Bourguignon, qui est à la fois chroniqueuse sur Radio Libertaire. Donc, ce soir, doit être sous les ondes. On a fait un travail sur Michel Ragon et son travail sur son livre Gustave Courbet, peintre de la liberté. Alors, ça a été on va dire, pour moi et pour Michel, ça a été un vrai défi pouvoir raccrocher Michel Ragon autour du. On connaissait Michel Ragon en ayant été critique d'art, avec plutôt de l'art moderne, mais Gustave Courbet, donc c'est quelque chose qui remonte bien à loin, même avant les impressionnistes. Donc c'était vraiment un travail de recherche qu'a fait Michel Bourguignon pour pouvoir remonter un peu d'où vient sa connaissance, d'où va son attachement pour Courbet. Donc, il va remonter jusqu'à Nantes quand il est adolescent. Et on va trouver des traces sur le fait que Ragon, il va s'intéresser très tôt. Il a 15 ans. Il va voir dans les musées, le musée de Nantes, il y a un tableau de Courbet et il va s'intéresser. Après, on a eu la complicité de ma compagne, on va dire, Sylviane Crouzet, qui est bibliothécaire, qui fait des lectures à voix haute. Donc, on a essayé de faire. L'enjeu, c'était de faire une prosopopée de Michel Ragon. Initialement, c'était l'idée de dire de faire dialoguer Michel Ragon avec Courbet. Pourquoi Courbet ? En rappelant que Ragon, il a 80 ans quand il fait ce magnifique ouvrage. Il remonte au lard, mais il fait un travail vraiment d'histoire. Enfin, c'est un vrai historien. Il va remonter, va faire une biographie. C'est plus qu'un livre d'art. Et dans lequel on va tracer, en effet, Ragon, il va traverser beaucoup de choses, parce qu'en effet, on va suivre Courbet. Donc, on va retrouver plusieurs thématiques au Dragon. Courbet, d'origine paysanne, vient de Besançon, un accent paysan. Il vient pour, on va dire, pour, enfin, il vient à Paris pour découvrir Paris, ou aussi pour s'affirmer en tant qu'artiste. Il est un peu rejeté parce que, bah, on va dire qu'il sentait un peu trop la ferme. Mais il a quelque chose, il va avoir quelque chose, Courbet, qui est vraiment exceptionnel. On sait qu'il a très vite... Il va comprendre qu'en effet, il va devenir un peu comme un peintre moderne, c'est-à-dire qu'il va faire sa propre publicité. Mmh. Il va construire en effet en dehors des expositions connues. Lui, il va construire ses propres expositions et dans lesquelles il va faire payer les visiteurs. Et il va évidemment, il va jouer sur le fait, il va créer du scandale. C'est quelque chose qu'en effet que Ragon, il va rattacher, il va remettre en effet, il va le resituer aujourd'hui, enfin avec des artistes modernes, enfin contemporains, qui ont joué avec cet aspect-là. On pense à César, on pense à d'autres peintres, aux Yves Klein, etc., etc., qu'ils ont fait, ils ont construit un peu leur mythe autour du scandale. Et Ragon, donc il va y voir dans Courbet quelque chose vraiment de la modernité là-dedans. Mais on ne voit pas que ça. Ragon, il va mettre aussi en évidence que c'est d'abord ce peintre, en effet, politiquement, il est très attaché à Proudhon. Il va fréquenter d'autres personnalités, Baudelaire. Mais il va garder un attachement très profond auprès de Proudhon, même si Proudhon, il l'admire pas tellement. En effet, il le considère que c'est un peintre. En tant que peintre, c'est un artiste, un saltimbanque. Mais néanmoins, en effet, Courbet, il va quand même garder cet attachement à cette philosophie. D'ailleurs, les admirateurs de Proudhon, ils vont lui servir d'être un peu c'est ses acheteurs. En effet, c'est les admirateurs de Proudhon qui vont se retrouver, en effet, qui vont trouver dans Courbet des œuvres, en effet, ils vont le soutenir, enfin, ils vont être un peu ses mécènes. On va retrouver des banquiers, des gens qu'en effet, ils voient d'autres choses dans ça, enfin, ils voient de la modernité dans ça. Et puis, Courbet, évidemment, il y a plusieurs aspects de Courbet. Courbet, enfin, celui qui a fait démolir la colonne Vendôme. Courbet, qui fait la peinture La naissance du monde, enfin, l'origine du monde, pardon, l'origine du monde. Et du coup, le travail qu'on avait fait avec Michel et Sylviane, c'était un peu de mettre en avant à la fois de faire parler Ragon, interviewé par un journaliste fictif, et Ragon, il répond. Il répond pourquoi il fait ce choix. Mmh. En s'appuyant sur le travail qu'a fait Ragon, c'est-à-dire ses écrits. En effet, on a mis en composition, enfin, Aragon répond. Aragon répond aux journalistes. Et on va traverser, en effet, on va voir à la fois si la pensée de Aragon qui va se développer, parce qu'en effet, c'est chaque fois, c'est un jaune miroir. Aragon qui s'est intéressé à Soulages, donc à la fois, en effet, qui s'est intéressé à Soulages et s'est intéressé à d'autres peintres plus modernes. En effet, on va voir qu'en effet, que son inspiration, à la fois son inspiration, mais c'est qu'il va chercher dans Courbet, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est à la fois c'est sa philosophie, donc c'est les origines, donc l'origine paysanne, il va y trouver la philosophie, il va y trouver aussi dans la philosophie ce besoin de liberté qui le traverse. Et à la fois, on va explorer aussi une partie de l'histoire, parce qu'Aragon, c'est aussi sa force, c'est un grand raconteur d'histoire, et on va trouver la commune. Et au travers de la commune de Paris, avec le fait d'abattre la colonne Vendôme, et on va traverser toute la partie de la commune de Paris, l'engagement de Courbet, qui est discutable parfois, parce qu'il on ne va pas dire qu'en effet qu'il a donné l'ordre de démolir. Il a un peu, il a fermé les yeux, on va dire comme ça. Mais on voit tous les intellectuels qui vont traverser. En effet, c'est vraiment c'est à la fois, c'est plus qu'une biographie. On a un livre d'histoire qui traverse et qui on voit toute une période de Paris qui est très importante. Jusqu'à en finir avec Courbet, il se retrouve en Suisse, exilé, fin de sa vie, complètement malade, etc. Et pour refaire des rebonds à aujourd'hui avec l'origine du monde, l'origine du monde pour tous, c'est aujourd'hui c'était, mais ça a été au départ ce tableau, ce n'était qu'une commande, sorte de cadeau, qui offrait un marchand d'art. Voilà, c'était un petit cadeau qu'il lui faisait. En effet, à l'origine, en effet, le Khalil Bey, donc le marchand d'art, en effet, il achète plutôt un autre tableau. C'est un tableau où il y a deux femmes, donc on peut soupçonner que c'est un tableau sur l'homosexualité féminine. Et lui fait un petit cadeau, c'est l'origine du monde. Caché, disparaît, disparaît dans les... acheté par Lacan, qui cache derrière, et puis il revient, et Courbet redevient, c'est qu'aujourd'hui on a Courbet. Voilà. Mais... pour moi, ce que je trouvais formidable, c'est aussi de voir, parce qu'en effet, c'est aussi les œuvres de Courbet, c'est-à-dire revoir Courbet, revoir Le Désespéré, voir ses peintures modernes, puisque c'est le premier qui va faire, par exemple, des peintures totalement sur la nature, la mer, rien d'autre que des vagues. C'est vraiment le premier qui va faire ça. Il se considère, Courbet, comme un peintre naturaliste de la nature. Il le revendique. Ce n'est pas, ça a été le précurseur des impressionnistes, comme Monet qui vont le suivre. Mais à l'origine, lui, l'idée, c'est de décrire vraiment la nature, ce qu'il y a autour de lui. Et puis, un Courbet décrit une sorte de père Ubu, mais moi, je dirais plus qu'un père Ubu. Moi, je le voyais quand je lisais le livre, je voyais plutôt, si vous me permettez, un peu l'acteur, j'ai mangé son nom, Depardieu. En effet, un ogre, quelqu'un qui mange la vie, qui est vraiment... À la fois, en effet, Aragon, il fait vraiment, enfin, c'est un livre à la fois, un livre d'histoire, mais à la fois aussi un livre, un conte. C'est quelque chose de vraiment, ce livre est magnifique. Enfin, c'est, on lit biographie, c'est, enfin, comme si on lisait un roman, mais avec des faits historiques, avec des appuis, avec des, et, avec des, des témoignages, des courriers, enfin, des, etc., etc.
Juste pour compléter,
oui.
Si tu permets, la genèse en fait de ce bouquin, la Courbet, c'est dans un roman de Ragon qui s'appelle Un si bel exploit, qui est un très beau roman. Le titre l'est peut-être un peu moins, mais où on retrouve Proudhon,
oui.
Hein, Gustave Courbet, tous deux franc-comtois, et aussi le modèle biographique donc de du héros principal qui est un architecte, et c'est Hector Auro. Donc là, il y a effectivement dans ce roman les trois composantes, hein, donc à la fois le côté très révolutionnaire, hein, donc, puisque ça se passe entre 1848 et 1870, les deux révolutions, l'architecture, et notamment l'architecture utopique, et bien sûr la peinture. Voilà. Et avec en sous-bassement toute la pensée de Proudhon.
Moi, je voudrais ajouter que si Michel a fait ce livre sur Courbet, c'est que c'était un grand amoureux de la peinture de Courbet. L'histoire de Courbet l'intéressait beaucoup, mais c'est la peinture qu'il a aimée. Si on parle de Courbet, c'est parce que ses peintures sont superbes. L'enterrement en ordonnance, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que Michel a fait ce livre et l'a reconduit et il aimait la bourgeoisie rurale de Courbet, en fait. C'est un des premiers qui a peint des paysans, qui a peint... Donc ça correspondait la littérature prolétarienne, mais la qualité de la peinture avant tout.
Ce qu'il disait André, effectivement, on va dire dans la prosopopée, on fait démarrer l'interview où Ragon, enfin, plutôt le journaliste, il évoque, en effet, cette idée, pourquoi les choisir. Donc, bon, évidemment, j'ai pris le parti pris, enfin, on a pris le parti pris de faire dire à Ragon, j'ai fait un livre dont André parlait. J'évoquais Courbet, j'étais fasciné par Courbet, donc j'ai décidé de faire...
Et les lecteurs, courrier de lecteurs qui disait vraiment le personnage de Courbet dans Un si bel espoir est tellement important que vous devriez écrire dessus. Oui. Donc en fait...
et du coup, voilà, ça a été...
Moi, je voudrais poser une question à Raphaël. Dans la revue Fragments, comment vous allez faire parler Comment vous avez fait?
Ça a été, enfin, je ne sais pas, Martine pourrait en parler plus que moi, mais ça a été fait au niveau de la maquette, c'est-à-dire par rapport à la présentation qu'a fait Giuseppe, il y avait, dans le cadre de l'entretien du colloque, il y avait en même temps la projection des tableaux. Et en fait, on a repris cette présentation, ça fait un gros travail, notamment pour l'équipe, c'est vrai, de relecture, etc. Mais c'est, je crois, assez fidèlement repris. Enfin, c'est toi qui peux me dire. Mais oui, on a fait... voilà. Après, il y a peut-être aussi un aspect aussi qu'il faut souligner aussi, en dehors d'aimer les tableaux, c'est qu'il y a quelque chose de commun aussi. Marx disait de Proudhon, c'est un autodidacte. Et je répugne pour ça par rapport à Proudhon. Et je crois que ça renvoie aussi à des choses sur la démarche de Michel Ragon par rapport à ça. Je crois qu'il y a... Et sans doute de Courbet aussi. On retrouve un itinéraire de gens qui viennent... qui se sont formés eux-mêmes. Quoi.
Il est allé à l'école des Beaux-Arts de Besançon, Courbet, et puis après il a fait des études dans des ateliers à Paris. Hein. C'est pas un autodidacte.
Je crois d'ailleurs que Michel Ragon, dans un texte, cite Marx, la citation de Marx, et il dit « Mais moi, j'en suis fier d'être un autodidacte, de mémoire. » Mais c'est vrai que, par rapport à la présentation de Giuseppe, c'est difficile à retraduire ici, parce que il n'y a pas les tableaux qui, à chaque moment, illustraient les entretiens et le questionnement. Quoi. Mais vous aurez ça dans la revue. Les actes du colloque vont être intégralement repris, plus des contributions, au moins deux ou trois, de personnes qui n'étaient pas présentes, qui n'avaient pas pu venir au colloque, hein, Philippe Genest et Léa Delaby, qui est une étudiante qui a travaillé sur la littérature prolétarienne et qui a fait une très bonne contribution sur, à partir du livre de Michel Ragon, Drogue de métier, sur le rapport un peu de Michel Ragon par rapport au travail. Ça, ça sera en plus. C'est-à-dire, bon, voilà. Ça va être un copieux numéro 10 qui devrait sortir début de l'année. Voilà.
Après, c'était un parti pris de ma part. En tant qu'auteur, je ne sais pas faire, enfin, je ne sais pas faire des exposés. J'ai raconté une histoire. J'ai voulu dégager une histoire. Après, comme dit Raphaël, pour moi, c'est très difficile. On l'avait, avec Michel Siliane, on l'avait conçu, on avait travaillé vraiment dessus. C'était un peu... C'était une lecture spectacle. On faisait un spectacle. C'était... il fallait vraiment que... On avait dit, il faut que les gens... Enfin, il faut que les personnes qui nous écoutent, qui viennent nous voir, c'est comme s'ils venaient écouter Ragon, qui leur expliquait pourquoi, pourquoi il a voulu écrire sous ce livre. Donc c'était un parti pris. Évidemment, c'est bien la fiction, je ne dis pas que c'est vrai. Donc pour ça, c'est plutôt André qui pourra nous dire si c'est vrai ou pas, s'il y a des vérités. Mais le parti pris, c'était un. De dire, voilà, vous venez voir, on commémore le centenaire de sa naissance, et ben, on va écouter Ragon. C'est un ami, venez l'écouter comme si vous participiez. Voilà, c'est ça le parti pris. Donc après, je ne sais pas si c'est réussi, mais en tous les cas, l'idée était là.
C'était réussi au colloque.
Oui, oui, parce que c'était. Ça tranchait aussi, et ça, c'était. Un autre type d'approche, quoi. Et je pense que dans la traduction écrite qu'on en a fait, je crois que ça va bien refléter cette dimension, quoi. Ça rendait un peu plus vivant.
Et pour la petite histoire aussi, on peut dire que le bouquin sur Courbet était presque une commande, quoi, qui avait été faite par Claude Durand à l'époque, des éditions Fayard, et qui espérait, qui avait comme ça dans l'idée peut-être de détourner le romancier à succès Michel Ragon vers l'enseigne Fayard. Quoi.
Voilà. Oui, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas fonctionné.
S'il y a des questions, on peut peut-être en faire maintenant, ou c'est comme vous voulez, hein. Avant d'attaquer le travail d'André Derval, qui est copieux.
La revue, vous la déposez dans les librairies qui veuillent bien l'accueillir. Est-ce qu'elle est chez Publico?
Oui, bien sûr. Elle est à Publico, elle est en région parisienne, elle est à la Publico, elle est à Quilombo, elle est dans deux librairies du 18e. Tu vas m'aider, Laurent. Le Pied-à-Terre et le Rideau Rouge. Et dans le Val-de-Marne, demain, Fontenay-sous-Bois, à la Flibuste aussi.
Au Mont-en-l'Air.
Non, pas encore, mais. Et on s'est raté, parce que Sarah Matari a présenté son livre, et je n'ai pas pu y aller. Mais ça devrait se faire au Mont-en-l'Air aussi. Mais on a aussi un système d'abonnement qui est important, et on a à peu près 150 abonnés, quoi, et qui se renouvellent, et voilà. Et puis il y a un peu le bouche à oreille, voilà. En gros, les objectifs, puis les salons dont j'ai parlé, puis ce colloque qui nous a aussi amené des gens. Et ce qui est intéressant aussi sur les abonnés à la revue, c'est aussi que parfois, on a l'impression qu'il y a une partie qui recoupe les anciens bassins industriels, notamment une forte présence plus significative dans les Hauts-de-France, l'Est un peu, et la Bretagne aussi, et moins du côté de Marseille. C'est des trucs... Et d'ailleurs, on a eu des contacts directs avec des gens qui... je pense à Vincent Di Martino, qui a écrit un livre en 2011, le couloir de l'horloge, aux éditions Temps des cerises, qui était ouvrier à la lignière de Roubaix, par exemple. et qui va publier là, un nouvel ouvrage chez l'Harmattan, Horizon amer. Voilà, on a un peu ces choses avec des bassins. Il y a quelque chose qu'il faudra creuser un jour, analyser. Voilà. Et tous ne sont pas des retraités. C'est voilà. Fait. Même s'il y en a un certain nombre ici.
Bon. Je tenais à souligner qu'en effet, que la revue, combien même on puisse être autogéré avec des propositions, je tiens à souligner quand même la qualité. Je ne suis pas que chroniqueur pour la revue, pour Fragments. Je publie dans une autre revue qui s'appelle Rumeur. Je tiens vraiment à dire qu'en effet, que la revue est de qualité. Les textes sont de qualité. Il y a un vrai sérieux, travail sérieux derrière. Ce n'est pas du dilettantisme ou l'amateurisme. Voilà. Non, je tenais quand même au.
Il est bien ce directeur.
Giuseppe, tu parlais du texte de Ragon sur Courbet, entre roman et histoire. On pourrait dire que pour simplifier ou pour on va dire donner une vision un peu restreinte et restreinte de ce qui a été une séparation entre littérature et savoir et sciences humaines, par exemple. Les deux étaient séparés. Aujourd'hui, il y a peut-être une réinvention, un questionnement sur les formes d'écriture qui peuvent être des formes porteuses de savoir. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que Ragon a anticipé, on peut lire ses livres, ses romans comme des sources historiques et des sources pour historiens, comme l'a fait d'ailleurs une des présentatrices au colloque, qui a travaillé à partir des mouchoirs rouges de Cholet en particulier pour montrer que Ragon avait une vision en fait qui n'était pas celle qui a été récupérée par l'extrême droite, notamment pour montrer que les Vendéens n'étaient pas des anti-révolutionnaires, mais plutôt en fait qu'ils essayaient de défendre une terre et leur culture, plutôt que d'être d'associer à une certaine forme de lecture politique. Mais est-ce qu'on pourrait dire que Ragon, finalement, dans son écriture romanesque, ne sépare ni la forme de savoir historique, ni l'écriture en elle-même? C'est-à-dire que c'est une forme de fusion ou de mélange.
Moi, je dirais qu'en effet, moi, je connaissais Ragon par la mémoire des vaincus. Ce livre, je l'ai lu pas comme un livre d'histoire, je l'ai lu comme un roman, en effet. Pour moi, Ragon, ce qui m'a touché, c'est un raconteur d'histoire. Et peu importe qu'est-ce qu'il touche, enfin, à quoi le sujet qui va s'intéresser, il raconte une histoire avant tout. Par mes origines, donc italien, plutôt d'origine rurale, ça me renvoie, en effet, c'est quand moi, petit, jeune, enfin enfant, c'était les histoires qu'on me racontait, les contes qu'on me racontait. En effet, c'est un peu cette tradition paysanne. Le fait que de parler la réalité, quelque chose qui nous entoure, en faisant un conte, en embellissant, en faisant quelque chose. Et ça, je retrouvais chez Courbet. Et vraiment, pour l'anecdote, j'ai lu de Ragon les ateliers de Soulages. Bon, j'ai fait histoire de l'art. Je passais un bac en histoire de l'art. Personnellement, c'est pas Soulages, c'est pas ce que je trouve de mieux. Mais en lisant Ragon, on est vraiment envoûté par le livre. En effet, on a envie de voir. Après, la déception, ce que je trouve, c'est que quand on voit les images, on se dit quand même, Ragon a été quand même meilleur. Bon, ça, oui, c'est un avis.
La question de la reproduction photographique, quoi, qui n'est pas exactement la même chose que quand on est face à l'œuvre.
J'ai vu l'œuvre au musée d'art de Saint-Étienne. Ce n'est pas ça que... Enfin, je trouve que Ragon raconte mieux. Et, en tous les cas, peut-être aussi, moi, je me suis laissé embarquer par l'histoire. C'est-à-dire, Ragon, il va raconter les ateliers de Soulages. Donc, il va construire, il va expliquer pourquoi Soulages fait ci, pourquoi Soulages fait ça. Même s'il va parler de pourquoi Soulages il a choisi de peindre comme ça, pourquoi Soulages il a choisi de prendre telle couleur, pourquoi la couleur, etc. Mais on se laisse porter par Aragon. Et ça, c'est sa force, Aragon. C'est...
Oui.
Et ça, c'est...
Tu peux ajouter un mot. C'est-à-dire que ça se combine, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois son expérience personnelle, hein, et ça, c'est dans tous ses livres. Hein. Il se met toujours, en fait, en scène, mais enfin, disons qu'il est toujours acteur quoi, de la narration. Et ça, c'est son expérience personnelle qu'il traduit, effectivement, dans le cadre de la fiction. Ça, c'est réel. Et c'est là où, en fait, il a le plus travaillé, quoi, hein, donc, dans le cadre du roman. Et aussi, comme le disait Françoise, une énorme documentation à chaque fois. C'est un type qui travaille énormément en amont sur le sujet sur lequel il va se pencher dans le cadre de l'écriture romanesque la plupart du temps. Alors après, il a pu faire, ça on le sait bien, hein, des sommes, hein, je dirais, scientifiques, hein, pour notamment l'architecture, mais aussi dans d'autres domaines. Mais dans le cadre du roman, c'est vrai qu'il y a un accès au savoir à travers ces deux données-là, l'expérience personnelle et puis une énorme documentation, il semble. Et ça, c'est un peu la patte Aragon.
Bah, tu es un peu en... Il n'y a pas d'autres questions, non ? Donc, on peut faire... Tu as commencé à faire la jonction avec donc, ton livre, hein, Michel Aragon, singulier et pluriel. Alors, est-ce que tu peux... Alors, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin après cet échange, il y a eu un entretien qu'on a fait avec André, qui passe en ce moment sur Radio Libertaire, qui est passé ce soir, qu'on avait enregistré. Mais je pense que c'est important peut-être qu'on l'aborde. Déjà, ton intérêt et comment tu t'intéresses à Aragon et comment tu le découvres ?
Alors, j'ai découvert Michel Aragon à travers le graphiste Massin. Je travaillais sur les archives de ce graphiste, donc voilà, qui travaillait beaucoup avec les maisons d'édition. Il faisait principalement des maquettes de couverture. Et donc, dans la production Massin, il y avait La mémoire des vaincus. Donc, je l'ai lu. Et c'était en 1990. Et j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait une lettre de Louis-Ferdinand Céline dans ce bouquin. Et donc, j'ai questionné Massin pour savoir si je pouvais avoir un accès à Michel Aragon. Il m'a dit, ça tombe bien, on est copains depuis 1946, donc pas de souci. Voilà, donc j'ai rencontré Michel Aragon. Il m'a montré la lettre en question. On a fait une édition scientifique dans une revue à laquelle je collaborais à l'époque, l'année Céline. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à discuter, à se rendre compte qu'on avait des choses à se dire, et donc à déjeuner assez régulièrement. Et puis voilà, 30 ans après, effectivement, on en était toujours à se fréquenter très régulièrement. Donc à la suite, quand effectivement Françoise m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour faire cette biographie qu'elle ne souhaitait pas être confiée à un collectif avec des spécialistes dans chaque domaine qu'a pu travailler Michel Aragon, mais au contraire montrer quelle était l'unité, hein, le fil rouge, qu'est-ce qui cimentait en fait cette œuvre si protéiforme. Je me suis mis sur les rangs, j'ai fait un petit argumentaire qui a été transmis à qui de droit, et puis j'ai fait donc cette biographie à la suite. Après un gros travail sur les archives et aussi un gros travail de lecture parce qu'il y a quand même quelques dizaines de milliers de pages, je crois, hein, quand même, dans l'œuvre de Michel Aragon.
Et dans ton livre, donc, tu abordes un peu par période ce que tu caractérises au départ, les années d'apprentissage.
Oui, alors j'ai fait, donc c'est découpé en quatre parties. Hein, ce livre, donc il y a effectivement une première partie, c'est les apprentissages, donc c'est sa jeunesse à Fontenay-le-Comte en Vendée, la tragédie de la mort du père alors qu'il a il a 8 ans, Michel Aragon, quand il perd son père. Donc là, je crois que c'est quelque chose qui a été très très fondateur, quoi, dans son parcours, parce que il s'est retrouvé assez démuni, avec sa mère, ils sont Ils ont été hébergés du côté, disons, le moins argenté de la famille, hein, donc la famille maternelle, donc les grands-parents qui vivaient très peu, hein, puisque elle vivait de lessive et lui faisait un peu de jardinage. Donc assez rapidement, des conditions de vie assez pénibles, assez très modestes, quoi. Donc, et puis sa mère décide qu'il ne suivra pas d'études. D'ailleurs, probablement sur un malentendu, elle n'avait pas bien compris ce que lui avait dit l'enseignant, etc. Alors qu'il aurait pu bénéficier d'une bourse, probablement, parce qu'il était pupille de la nation, donc il aurait pu effectivement poursuivre ses études. Bon, il ne le fait pas, sur décision maternelle. Et ils partent après pour Nantes. Nantes, où là, il va voir ce que c'est véritablement la misère sociale. Hein, donc ils vivent dans des conditions vraiment épouvantables, on peut dire. Et puis il est épuisé par le boulot, hein. Il fait des petits boulots, il est coursier, enfin comme on dit là-bas, saute-ruisseau, etc. Il est manœuvre, enfin bon. Mais dans le même temps, il abandonne jamais cette idée que voilà, il y a une sorte de salut à travers la lecture, quoi. Et donc il dévore des bouquins, et il y a des archives pour ça qui sont tout à fait passionnantes, des petits carnets sur lesquels il a consigné. Année après année, les œuvres, les auteurs, etc. D'ailleurs, au début, il fait une petite classification pour dire ça, c'est très bien, ça, c'est bien, ça, etc. Enfin bon. Et donc, on se rend compte que ce garçon, il lit 200 livres par an, en pleine occupation. Et donc, il écume les bibliothèques paroissiales, il va après dans les librairies de Paris. Il peut pas acheter de bouquins, hein, donc il emprunte des bouquins, et puis il se forge comme ça une culture autodidacte. Alors, il est un peu vexé, bien sûr, à un moment, parce qu'il se rend compte qu'il y a des manuels, hein, de littérature, donc il aurait pu effectivement gagner du temps. Donc, il en conçoit un petit peu de ressentiment. Mais voilà, c'est le principe de l'autodidaxie. Mais il n'est pas du tout, encyclopédique, quoi. Il a, au contraire, assez rapidement ses intérêts, quoi. Il voit bien en fait, vers quoi il veut se tourner. Et donc, assez rapidement, c'est la poésie. Et puis, voilà, il écrit à Paul Faure, il écrit à Georges Duhamel. On en parlait avec un chercheur. Peut-être qu'il a rencontré Georges Duhamel au moment où il est allé à l'enterrement de sa demi-sœur en 1943 à Paris. C'est le premier voyage à Paris. Et puis, il écrit aussi aux poètes de l'école de Rochefort. Il va voir Jean Bouillet dans sa pharmacie, etc. Donc, il est plein d'audace en même temps.
C'est un premier combat, ça, parce que dans son milieu, lire, c'est souvent dévalorisé.
C'est dévalorisé, oui.
C'est même méprisé parfois.
Ouais, mais lui, il était dans cette espèce de relation avec sa mère où ils se sont un peu réfugiés dans la lecture, quoi, après la mort du père. Hein, elle-même était un peu lectrice. Bon, c'était la lecture, voilà. Mais en tout cas, il y avait cette pratique de la lecture assez rapidement, quoi. Et puis, il a rencontré comme ça, ponctuellement, des gens lors de vacances en forêt de Mervent. Il avait bénéficié d'une allocation pour avoir des vacances, donc il va en forêt de Mervent. Il rencontre une lycéenne qui prépare son bac et lui passe des bouquins. Il y avait des lycéens aussi dans son école qui lui passent des bouquins. Donc, il passe à son temps en récréation à lire des bouquins plutôt que de taper dans la balle. Donc voilà, c'est ce genre de garçon, quoi, un peu introverti dans la lecture, avec un grand dégoût de l'alcool, parce que son père est mort un peu aussi à cause de l'alcool, etc. Bon, il était revenu d'Indochine avec une maladie pulmonaire, mais ça a été quand même largement aggravé par l'alcool. Et donc, il est pas, j'irais, d'une certaine façon distrait, quoi, par l'alcool quand il arrive à Nantes, quoi, alors que tous les manœuvres, tous les gens là, comme ça, veulent le forcer à boire et tout ça. Donc, il en vient même au point, quoi, pour ne pas boire, mais au contraire, il est concentré sur la lecture, quoi.
Mais dès la période nantaise, il va être confronté au fait que l'autodidacte, il n'est pas admis parmi le cercle littéraire du coin.
Ah non, donc, seulement par le cercle littéraire, mais même par les bibliothécaires.
Il y a un vrai rejet.
Il va à un moment à la grande bibliothèque de Nantes qui, de ce que je sais, quoi, était en fait dans le musée. Hein, dans le musée actuel, le musée des arts, puisque c'est même plus le musée des beaux-arts. Et donc, il est refoulé. Hein, le bibliothécaire le voit avec sa tenue, etc. Lui dit, c'est pas pour vous, sortez. Donc, c'est pas simplement les petits cercles littéraires qui peuvent compter. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était plutôt les lycéens. Parce qu'il organise, parce qu'il est, comme je vous dis, hein, il est vraiment plein d'audace et donc il fait des débats comme ça dans les librairies sur la littérature du peuple. Hein, donc, et les lycéens du coin, les bons fils de bourgeois, quoi. Enfin, les lycéens en 1900, pendant l'occupation, il y a rarement de classe populaire qui s'est représentée. Donc c'est le prennent en grippe. Ils lui disent, mais pour qui il se prend, etc. Et ils iront même écrire, jusqu'à écrire, quand il sera arrivé à Paris, donc à partir de 1945, enfin, fin de l'été 45, à écrire à Poulaille en lui disant, faites gaffe à ce type-là, etc. Oui, donc il est un peu poursuivi quoi, par ses préjugés de classe, quoi, en quelque sorte.
Voilà. Donc les années d'apprentissage.
Oui, apprentissage.
Et puis ensuite.
Et après, c'est les constructions. Alors, c'est ce que j'ai appelé construction. C'est-à-dire que il a un certain. Bon, d'une part, il a quand même l'aide de Poulaille, hein, qui est déterminante, hein, qui lui met le pied à l'étrier pour faire sa première. Enfin, il est directeur d'une revue à un très jeune âge. Hein, il a une vingtaine d'années. Hein, donc, bon. Et aux grandes dames d'ailleurs des vieux routiers de la littérature prolétarienne qui espéraient un peu quand même dans le sillage de Poulaille faire quelque chose avec lui, ben non, Poulaille décide que ce sera ce jeune garçon qui vient de Nantes, etc. Bon. Donc là, il y a quelque chose un peu étonnant, enfin disons assez miraculeux, pour, en tout cas pour Michel. Et puis assez rapidement, il fait son essai là, sur les écrivains du peuple, aussi grâce à Poulaille, qui l'aide beaucoup aussi en termes d'écriture, hein, parce que il a beau lire beaucoup, Michel, Ragon, il n'a pas l'aisance quoi, que peut avoir quelqu'un qui a suivi les humanités, hein, donc, en termes d'écriture. Donc, Poulaille l'aide beaucoup. Parfois, il rectifie un peu ses choix quant aux écrivains du peuple en question. Donc, les archives sont passionnantes pour ça. Hein, donc, avoir les différentes versions des écrivains du peuple, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant. J'espère que les générations futures s'y pencheront. Et donc, construction aussi de sa carrière de critique d'art, qui là aussi est quelque chose de tout à fait étonnant, parce que il a été un peu intéressé par le travail des étudiants en beaux-arts quand il était à Nantes. Il se baladait en tant que coursier, puis il tombe devant la présentation d'œuvres qui ont été réalisées par les étudiants des beaux-arts. Et voilà, il trouve que c'est tout à fait étonnant. Il se lie d'amitié d'ailleurs avec deux de ses étudiants, là, Martin Barré et James Guittet. Ils vont devenir des amis à vie. Mais c'est surtout quand il arrive à Paris, là, il va dès l'automne 1945 au Salon des Surindépendants. Et là, il voit des choses qu'il a. Enfin, il voit Atlan, notamment, hein, etc. Et Schneider. Et Mathieu. Et là, c'est quelque chose. Pour lui, c'est autre chose. Il passe vraiment dans un autre monde, quoi. Là, d'un coup, il se dit, il faut que je témoigne de ça, quoi, de cette émotion importante, esthétique, mais aussi, qu'il l'engage au-delà de ce qu'on pouvait et de ce qu'il pouvait, je pense, imaginer. Hein, donc, il commence à fréquenter les peintres, hein, parce qu'en fait, il fait toutes les galeries. À cette époque-là, tous les tenants de ce qu'on appelle maintenant l'abstraction lyrique, ils se retrouvent toujours dans des galeries un peu vides. Et puis, il y a toujours ce garçon-là. Donc, ils finissent par lui parler. Et comme ils se rendent compte qu'il fait des piges pour le journal Art, ils lui disent, tu ne pourrais pas nous passer un papier. Et c'est comme ça, quoi. Donc, et également, qu'il commence à faire quelques critiques d'art. Sur je dirais presque sur un malentendu au départ. avec Utrillo, enfin, il fait un article sur Utrillo qui est assez drôle, mais qui est plutôt remarqué. Hein, et donc, à la suite de ça, on lui confie une petite rubrique sur l'art. Et donc, il va commencer une carrière de critique d'art où il va se faire quand même... remarqué de façon extrêmement importante parce qu'il a un ton tout à fait différent. C'est un autodidacte, donc il peut outrepasser les règles de la bienséance, quoi, si on veut dire les choses comme ça. Hein, c'est-à-dire qu'il s'en prend assez rapidement à Picasso, enfin, toutes les gloires du temps y passent, mais en revanche, il met en avant bien sûr, les peintres de l'abstraction lyrique, mais aussi Cobra. Parce qu'il a été au Danemark avec Atlan, notamment. Et il en revient avec, effectivement, cette fréquentation des peintres qu'il a rencontrés là-bas et qui se retrouvent beaucoup à Paris. Hein. Donc, il devient secrétaire de la revue Cobra. Voilà, donc, c'est une carrière tout à fait... Enfin, les débuts sont assez fulgurants, quoi, d'une certaine façon, même si il est toujours soumis à des conditions de vie très difficile. Hein. Il travaille dans une fonderie, enfin, il est manœuvre encore, enfin, il a des tout petits boulots, mais comme à Nantes, quoi, de toute façon, même s'il fréquente les milieux, ce qu'on appelle de bohème, quoi, il n'est pas dans les excès, les libations, les choses comme ça, il est au boulot le matin. Quoi.
Mais cet intérêt pour l'art abstrait et ses nouveaux contacts, ça va aussi susciter des réactions dans le milieu... de l'écriture prolétarienne, puisque il y a un certain rejet qui va se manifester. Est-ce que c'est à l'origine de...
Disons qu'ils sont assez conservateurs, les amis prolétariens, sur le sujet.
Comment ?
Ils sont assez conservateurs, les amis prolétariens, sur le sujet.
On a publié dans le numéro 1 de Fragments, justement, les réactions. Il y avait un bulletin qui s'appelait Le Musée du Soir, qui était fait par des mineurs du Nord, et de Belgique aussi, hein, dans les années 50-60, et qui avait repris le titre du Musée du Soir, qui était l'espace qu'avait ouvert Poulaille en 1935 à Paris. Et on a republié dans ce musée des réactions d'un ouvrier, je crois que c'était Charpentier, ou René Bonnet, peu importe, ou Constant Malvas, c'était Constant Malvas,
oui,
qui est un mineur belge, qui casse Ragon en disant qu'est-ce que c'est, et Ragon lui répond.
Oui.
Il y avait quand même ces... C'est Géchon,
mais bien plus tard, c'est bien plus tard. Hein. Oui. C'est à la fin des années 50, 58, ouais, donc 50, dans mon souvenir. Ouais. Mais non, mais là, c'est sûr. Il a retracé hein, toutes ces fractures, en quelque sorte, hein, qui se sont opérées fin 40, début 50, entre les différents milieux qu'il fréquentait. Mais voilà, pour autant, les artistes ne s'intéressaient pas du tout à la littérature prolétarienne non plus.
C'était le monde d'une berge à l'autre.
Ah, donc, il a retracé ça dans un bouquin qui s'appelle « D'une berge à l'autre ». Alors, il y avait l'anarchie aussi. Hein, il y avait les milieux anarchistes. Il y avait les poètes. Et tous ces gens-là, en fait, étaient un peu sur leur quant à soi, quoi, on peut dire.
Et à un moment donné... On va passer au travail sur l'architecture.
Sur l'architecture, oui.
Avec un point de vue politique, d'ailleurs. C'est pas,
oui, bien sûr. Ça, c'est pas...
Qui est présent.
Ouais. Là, pour le coup, il reprise... Enfin, il fait, fait le raccord avec ses motivations politiques. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, c'est les conditions de vie, l'habitat, etc. Donc, c'est... je pense que c'est tout aussi important que le geste architectural et tout ce qu'il peut y avoir de lié à l'art, quoi, dans l'architecture. Donc là, effectivement, mais bon, j'en parle dans la communication que j'ai faite sous votre égide. Dès 1952, il fait une conférence sur l'architecture dans les petites causeries de la revue L'Unique. Hein, donc, son premier bouquin sur l'architecture, c'est 1958. Donc, 6 ans avant, il était déjà sur le sujet. Alors, ça s'explique parce qu'il avait Martin Barré, qui était... Son père était architecte, donc c'était un vieux copain. James Guittet avait toujours été intéressé par l'architecture. Quand ils allaient se balader, soit en Belgique, soit en Italie, de toute façon, c'était aussi quelque chose qu'ils regardaient beaucoup, même à travers leur façon d'appréhender les œuvres picturales. Hein, il y avait toujours cet aspect architectural dans la peinture qui les intéressait, tous les deux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là encore, et de façon très surprenante, il réussit son coup. C'est-à-dire qu'il n'a aucune compétence en architecture. Et pourtant, ses bouquins sont très bien reçus, hein, et par les autorités, par les gens qui font autorité dans ce domaine-là. Donc, c'est assez... C'est impressionnant,
Si j'ai bonne mémoire, sa première histoire de l'architecture comble un vide, puisque ça n'existait pas apparemment à ce moment-là.
Il y avait en français
l'architecture moderne. C'est l'architecture moderne.
L'architecture moderne, hein, bien sûr.
Moderne. Ouais. Moderne.
Ouais. Oui, alors, bon, il a organisé en 1956 toute une partie d'un festival qui s'était déroulé à Marseille, et notamment c'était une terrasse hein, de la Cité Radieuse. La Cité Radieuse. Et à cette occasion, il avait rencontré, il était proche de Martha Pan, donc la sculptrice. Il était très content de se balader avec son tech, etc., qui avait été aussi utilisé dans une chorégraphie de Maurice Béjart.
Oui, mais parce qu'elle était l'épouse d'un architecte, exactement. André Wojcinski, qui travaillait dans l'atelier de Le Corbusier.
Le Corbusier, etc. Ouais. Et à la suite, il a fréquenté assez régulièrement Yanis Xenakis, hein, qui travaillait aussi avec Le Corbusier. Donc, il a vraiment acquis assez rapidement une bonne notoriété, au point qu'il donnait quand même régulièrement des articles dans la presse hein, sur le sujet de... Il a d'ailleurs convaincu les gens de la revue Cimes, qui était vraiment très, très spécialisée sur l'abstraction lyrique, d'avoir une partie sur l'architecture. Donc c'est dans ce cadre-là, quand il était chroniqueur, en quelque sorte, responsable de la rubrique architecture dans un certain nombre de périodiques, qu'il a reçu des courriers, puis des projets, etc., d'un certain nombre d'architectes qui étaient, disons, en quelque sorte, les précurseurs de ce qu'on a pu appeler l'architecture prospective.
Tous ces projets avaient été refusés par toutes les autres revues.
Oui. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a fondé le Groupe international d'architecture prospective, donc le GIAP, dont l'acronyme, effectivement, n'était pas sans ironie dans les années 60, en pleine guerre du Vietnam. Quoi.
C'est bon.
J'en ai fini pour ça.
Ouais. Ouais, puis il me semble aussi qu'après les 68, il a... pas mal donné de textes aussi à différentes revues sur la question de l'art et la manifestation, sur la question de les inventions inutiles, je crois que c'était
les erreurs monumentales
dans différentes revues, je crois.
C'est des bouquins. Hein. Oui. C'est des bouquins. Ouais, hein. Les erreurs monumentales, c'est publié chez Hachette, c'est tout début des années 70, ouais. Et puis après, il fait un gros bouquin sur parce que à chaque fois qu'il j'irais corrélativement à sa production, disons, scientifique sur ces domaines-là, il fait aussi des essais polémiques. Hein, il propose des essais qui sont autant de débats de société, hein, où il est question, bien évidemment, d'environnement et aussi du geste artistique dans l'architecture. L'environnement, donc, etc. Et donc, et c'est notamment dans ces deux bouquins, Les erreurs monumentales, et puis L'architecte, le prince et la démocratie.
Et on parlait d'écologie, il avait rencontré René Dumont.
Hein, dès le début des années 60 au Chili, hein, en se baladant, et voilà, il avait sympathisé.
Voilà. Donc, on peut renvoyer à ce monument. Je dirais que pour compléter, il y a un deuxième ouvrage que nous on diffuse, qui est celui de Thierry Maricourt, qui est Michel Gringon, Une rage de lire. Qui est suit, je dirais, mot à mot presque, l'itinéraire de Michel Ragon de la Vendée jusqu'aux années 45, on va dire. Hein. Ouais. Les deux sont. Bon, il y a vraiment un travail global, mais les deux, à mon avis, sont intéressants et complémentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Alors, moi, je voudrais dire encore un mot. Ouais.
Vas-y.
oui, enfin, je voudrais dire un mot sur. Un point, en tout cas, qui est pas si connu que ça, mais c'est que Michel Ragon a écrit le premier bouquin sur le dessin du mot, en 1960, et c'est quelque chose qui avait été assez identifié par la presse dès son premier roman, Drôle de métier, en 1953, où il y avait, même si ce qu'il dépeignait était quand même assez terrible, quoi, puisque c'était ses petits boulots à Nantes, hein, pour l'essentiel, il y avait quand même un ton qui était assez humoristique et qui avait été retenu par la presse. D'ailleurs, faut voir. Enfin, ce qui est assez intéressant, c'est voir le parti qu'en a tiré Michel Ragon à cette époque-là. Il avait d'ailleurs, à la suite, puisqu'il fréquentait Delpire, Albert Delpire, hein, de la revue Neuf. Il lui avait même proposé un numéro spécial sur l'humour qui n'a jamais vu le jour. Et en revanche, dès 1960, hein, donc il fait juste après son bouquin sur les Anglais, peut-être qu'il y a un lien, ce que j'ai vu en Angleterre, il fait ce bouquin sur le dessin d'humour qui est vraiment, bon, qui a été réédité plusieurs fois, qui est vraiment important à plusieurs titres, c'est-à-dire que ça a beaucoup influencé les dessinateurs de presse de l'époque, qui l'ont lu, etc., et qui l'ont considéré comme un livre important. Et aussi, ça a aussi été à l'origine d'un certain nombre de manifestations régulières sur le dessin d'humour, hein, où il était tout le temps référencé, et la création d'une société protectrice de l'humour, dont Michel Ragon a été le président, jusque dans les années 77. Il y a un numéro d'Opus International sur humour et contestation, voilà, où Michel Ragon fait notamment fait un entretien avec André François, qui est absolument extraordinaire.
Et qui s'était arrêté, ces sociétés protectrices de l'humour s'est arrêté 10 ans après. Michel a dit, on ne peut pas être ancien combattant d'une société protectrice de l'humour.
Oui, et dernier point, donc quand même à la carrière de romancier, hein, quand même, il faut l'indiquer. Il écrit pas mal de romans dans les années 50, hein, pas moins de 5, dont des romans tout à fait étonnants où il essaie de tirer parti de son expérience de la fréquentation des artistes. Et il fait des bouquins qui sont presque comme inspirés par le système de collage. Il y a deux bouquins notamment qui sont sur cette veine-là, Les Américains et Jeu de dames. C'est des livres tout à fait étonnants, mais qui sont presque expérimentaux. On voit qu'ils cherchent vraiment à trouver une forme stylistique originale, etc. Et il ira dans cette veine-là jusque Nous sommes 17, que vous avez réédité récemment. Mais ça ne fonctionne pas. Il ne trouve pas le public, il n'arrive pas à trouver. Et pour lui, c'est vraiment le point déterminant, quoi. S'il n'arrive pas à trouver un public, c'est qu'il a raté son... Et de ce point de vue-là, on peut dire que tous les grands écrivains sont sur la même longueur d'onde. Donc... Voilà, dans les années 70, il se dit, finalement, je vais faire quand même une dernière tentative, mais ce sera vraiment, pour le coup, mon dernier roman. Après 76, ouais. Et donc, c'est en 1980 qu'il publie L'accent de ma mère. Et là, surprise, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien, puisque... Il a d'une part trouvé un lectorat assez important et son œuvre, donc fictionnelle, est même reprise en collection Terre humaine, donc de Mallory. Donc il se dit, là, il y a quelque chose. Donc il trouve en fait cette veine autobiographique qu'il avait un peu utilisée dans Drôle de métier, hein, ou dans Drôle de voyage, mais qu'il avait mis un peu de côté, sauf peut-être dans Les Américains, à la fin des Américains, où voilà, il y a de nouveau quelque chose. Mais là, en tout cas, il est vraiment complètement dans cette veine-là, et donc à la suite de L'accent de ma mère, il publiera donc Ma sœur aux yeux d'Asie, donc sur la question de sa demi-sœur que son père avait ramenée du Cambodge puis du Vietnam. Et là, de nouveau, ça fonctionne bien. Et la critique se dit, oui, mais enfin, bon, là, il prend des lettres de son père, et puis il fait que pour un roman, quand même, c'est un peu facile, etc., alors qu'il avait tout inventé. Alors il se dit, ils vont voir, puisqu'ils ne se rendent pas compte à quel point je suis romancier, et c'est là-dessus, donc, qu'il va, effectivement, creusant encore un peu plus profondément dans les archives familiales, enfin, du moins, ou imaginaires, quoi, faire ce bouquin, Les mouchoirs rouges de Cholet, où là, effectivement, il y a la description de la Vendée après le passage des colonnes infernales, donc un pays totalement dévasté et avec un grand souffle romanesque qu'il va trouver, là pour le coup, un large lectorat. Je m'étrangle. Merci. Vous êtes charitable, secourable.
Je pense qu'il faut quand même insister aussi sur la mémoire des vaincus, qui va lui ouvrir,
Après, sur le cycle vendéen, il va faire plusieurs bouquins. Mais c'est vrai que la mémoire des vaincus, là, c'est autre chose. C'est un roman total. C'est tout le XXe siècle qui est embrassé par effectivement, l'histoire des mouvements libertaires et comment ils se font ratiboisés, en quelque sorte, par leurs compagnons de lutte occasionnels. Hein, donc tant au moment de la révolte... Ça commence même, d'ailleurs, avec la bande à Bono, hein, puisque là, il y avait... Puisque le personnage principal est composite. Hein, c'est à la fois... Il y a des éléments de la jeunesse Henri Poulaille, hein, puisqu'il était proche, effectivement, des gens de la bande à Bono, mais aussi Gaston Leval, Bodhi, etc. Et donc, c'est cette traversée du siècle à travers l'expérience, disons, des mouvements libertaires qui fait que ce roman est tout à fait... unique, quoi. Il n'y a pas l'équivalent. On parlait de prosopopée, mais là, on voit quand même le personnage principal parler avec Trotsky, avec Lénine, avec Durruti, avec. Enfin bon, là, on est vraiment dans. Oui. Hein, là, il fait parler effectivement les morts. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je crois que, et même j'en suis persuadé, c'est un bouquin qui est considéré comme prescripteur, quoi, par les libraires proches de la mouvement anarchiste. Quand les gens viennent effectivement dans une librairie anarchiste et disent « Moi, j'y connais pas grand-chose, qu'est-ce que vous pourriez me recommander ?» La plupart du temps, on leur propose la mémoire des vaincus pour avoir un premier aperçu de ce qu'ont pu être les mouvements anarchistes au XXe siècle. Oui. Alors, à la suite de ça, il faut quand même signaler qu'il a écrit des biographies. Hein, des biographies, donc on a parlé de Courbet, mais il en a fait une aussi qui est assez... c'est une biographie composite, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois la biographie de Louise Michel et de Georges Clemenceau. Donc, il s'appelle Georges et Louise, c'est pas courant. C'est vrai qu'on pouvait se demander un peu ce qu'ils avaient en commun. Mais là, effectivement, il a trouvé un certain nombre de points sur lesquels Louise Michel et Georges Clemenceau se sont retrouvés.
Et sur la question de l'engagement, je pense que même s'il n'a pas eu de succès, celui qu'on a réédité, c'est quand même... nous sommes 17 sous une lune très petite. Le titre, c'est extrait du journal de bord de Che Guevara, quelques heures avant qu'il soit exécuté, puisqu'il n'était que blessé, et donc il a été achevé par l'armée bolivienne. Et c'est vraiment aussi toute une approche de la lutte anticoloniale sur 20 ans pratiquement, et notamment de la tricontinentale, sous forme de roman, et je pense que ça complète bien aussi, notamment dans la période actuelle, où la question du colonialisme, etc., comment c'est géré, c'est intéressant de voir cet ouvrage, ce roman, qui relate vraiment un point de vue global, hein, universel. Hein, c'est trois continents, c'est l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, hein, avec tous les différents mouvements qui se soulèvent. Et le malheur, c'est qu'il est sorti, je pense, en fin 68, et il y avait d'autres ouvrages qui encombraient les vitrines des libraires. Mais je crois que c'est quand même un bouquin important. Voilà, pour l'aspect sur l'engagement et en tout cas l'intérêt, puisqu'il aborde aussi le rapport avec les Black Panthers. Il y a toute cette vision aussi. D'ailleurs, je crois que c'est... On le reprend dans la publication. Je crois que c'est Robert Sabatier qui disait, dans 10 ans, malgré l'échec, on dira que tu as été le premier à écrire l'histoire de l'anticolonialisme de la tricontinentale, qui était l'organisation clandestine. Mmh. Voilà. Mmh. Voilà, c'était...
Et le personnage principal s'appelle Carlos.
Et il s'appelle Carlos. Ça, c'est...
Je ne sais pas si c'est
exprès. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi ce pseudo. Là,
pas sûr.
C'est là est l'origine du pseudo. On a fait un scoop, là.
Michel Poète.
Michel Poète, oui. Là, c'est un peu... Non, Françoise disait qu'il y a aussi le Michel Poète. Hein, donc, c'est comme ça qu'il a commencé en littérature. C'est comme ça qu'il a rencontré les premières personnes qui ont été importantes pour lui pour publier ses premiers textes, à savoir Robert Giraud, notamment. Robert Giraud, donc, qui a écrit beaucoup sur... des aspects folkloriques et avinés de Paris, mais qui aussi, dans un premier temps, était, il dirigeait une revue résistentialiste, Unir, et puis il a publié le premier poème de Michel Ragon, donc dans un recueil qui s'intitulait « Couronne de vent ». Et c'est intéressant parce que ça a été publié en fait à Limoges, cet ouvrage. Et d'une berge à l'autre, régulièrement, Michel Ragon fait référence au Limousin de Paris. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait comme ça tout un petit cercle, quoi, hein, de gens du Limousin qui œuvraient pour la cause poétique dans l'après-guerre. Alors, ça a été la dernière déclinaison de l'œuvre poétique de Michel. C'est, vous allez me rappeler le titre, mais en tout cas, c'est non, je pensais plutôt, vous savez, à ce qu'a fait Arnaud. Donc là, oui. Donc,
tu dois savoir le grand livre. La peau des choses. Voilà. Merci.
Voilà. Et donc là, c'est une réalisation donc des années 60 où un certain nombre d'artistes ont été sollicités pour illustrer les premiers poèmes l'intégralité des poèmes de Michel. Il y a aussi quelque chose à dire sur ce qui est réédité actuellement de Michel Ragon, parce que tout n'est pas disponible, malheureusement. Donc, ce qui a été réédité, c'est L'accent de ma mère, ma sœur aux yeux d'Asie, dans un coffret. En poche, il y a La mémoire des vaincus, Les mouchoirs rouges de Cholet, et le roman de Rabelais. Alors, il voulait faire une biographie de Rabelais, mais bon, si on parle dans le bouquin, c'est un peu long à expliquer, mais bon, il est venu sur la forme romanesque, et c'est vraiment un très, très bon livre. Et d'ailleurs, on se rend compte à quel point la presse anarchiste était très attentive en fait, à l'œuvre de Rabelais dès les années 50. Et puis, donc, il y a eu une bande dessinée. Oui.
Marin des Sables.
Hein ?
C'est le Marin des Sables.
Le Marin des Sables, exactement. Et ça, c'est un roman d'aventure qui se passe au milieu des boucaniers, des flibustiers, etc. C'est tout à fait étonnant parce que là, de nouveau, il arrive à restituer un peu ce qui pouvait être un esprit égalitariste ou pré-libertaire chez les flibustiers. Et c'est un peu tout. Il y a les ateliers de Soulages aussi qui est ressorti en édition courante, je dirais, donc sans les illustrations, mais où il y a quelques facsimilés d'archives. Hein, donc,
il y a des textes d'archives de travail de Pierre Soulages, c'est-à-dire qu'il écrivait à Michel, qui retravaillait donc sur le texte, mais avec une précision assez étonnante. Une fleur, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Enfin bon, c'est très intéressant de voir la précision même de Soulages qui veut vraiment ce qu'il veut. Et il y a un texte du conservateur du musée, Benoît Decron, du musée Soulages, dans ce livre.
Très bon musée.
Donc on peut dire que Michel Ragon a réussi, sinon à trouver sa place, du moins à construire et à inventer sa place au monde. On n'a plus beaucoup de temps. Simplement, je voulais revenir sur le projet même de la revue Fragments, puisque Michel Ragon a réussi. Qu'a-t-il réussi? Une œuvre, trouver sa place, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'il en est de la littérature prolétaire? Est-ce qu'elle est indiscutable dorénavant? Ou pas? Est-ce qu'il faut encore enfoncer les portes, passer par les fenêtres?
Je pense qu'elle existe maintenant, qu'elle soit indiscutable, je ne crois pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, c'est D'ailleurs, on est la seule revue qui traite de cette question. Il n'y a pas d'autre équivalent aujourd'hui, en tout cas en France. Et je pense qu'il y a des périodes, il y a un travail à faire à la fois de passeurs de mémoire, mais de contribuer, faire connaître des gens qui écrivent aujourd'hui. Et notre existence prouve qu'il y a des manuscrits qui nous arrivent, il y a des textes, il y a des nouvelles, il y a des poèmes aussi. Alors, il y a aussi des gens dont le seul objectif, c'est de mettre leur nombring sur la table. Mais bon, on les écarte. Mais je veux dire, ça témoigne quand même d'une réalité. Alors que cette réalité puisse progresser, moi, je crois que oui. C'est un combat. Il y a tout un travail à améliorer. Laurent est parti un peu plus tôt, mais notamment sur l'existence de textes dans d'autres pays qu'on peut traduire. Parce que si on fait un bilan, on s'est beaucoup intéressé. Il y a beaucoup d'écrits en dehors de Poulaille, hein, sur la littérature hors les murs, on va dire, hein, hors les murs, hors l'hexagone. Et or, ça existe. Hein, on a un vieil ouvrier italien, Ferraccio Brunario, qui était ouvrier à la Fiat, qui nous envoie des textes, qui est très ancien, qui fait des poèmes graffiti tracts sur les murs et depuis 50 ans. Et donc, il y a sans doute beaucoup de choses à... Alors, je pense que Poulaille, il y avait un avantage, c'est qu'en étant aux éditions Grasset, je pense qu'il avait un réseau de traducteurs. Donc, assurer ce... Bon, là, on commence à avoir des pistes, nous, pour un certain nombre de langues. Mais voilà, il y a tout un travail de propagation à faire et à contre-courant. Mais ça, à contre-courant, c'était le titre d'une revue de Poulaille. Là, il y a la troisième, je crois. Et donc, c'est pas ça qui nous fait peur.
Puisqu'on parle d'international, pour l'Italie, il y a une poétesse, Nella Nobili, qui a écrit en italien et en français, pour laquelle c'est vraiment du militantisme très fort. À la fois, elle écrit dans les années 60 et revendique la dimension féminine dans les usines, et en mettant en avant le fait d'être homosexuel et de le revendiquer. Aujourd'hui, elle revient, en effet, je crois qu'il y a un travail d'une universitaire qui la remet en avant, je crois qu'elle a été republiée. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Pour l'Italie, bon, j'en parle parce que je suis d'origine italienne. En Italie, la littérature prolétarienne n'existe pas. Le sens n'existe pas. On appelle plutôt, on a repris l'idée de la working class, un peu comme le terme anglais. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a des écrivains prolétariens. Il y en a eu. Il y a eu Tommaso Di Ciaula, Brugnaro. Il y en a, pour ceux qui connaissent, Tout à Blu, Bleu de Travail. C'est un journal d'un ouvrier italien du Sud. Il a fait de la poésie. Mais on a aussi d'autres écrivains qui ont écrit sur leurs conditions. Il y en a un, je ne sais plus son nom, il part en Suède, il écrit en suédois. Donc c'est un ouvrier. Ça existe. Et puis, si on compare peut-être encore plus loin dans l'international, il y a des écrivains qu'on pourrait penser comme étant prolétariens. Raymond Carver, mais bon, pour une littérature américaine, en effet, c'est un nouveliste. Quoi. Mais on peut chercher comme ça.
donc, ce n'est qu'un début pour Fragment.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Ce n'est qu'un combat, continuons le début.
Mais oui, camarades. Eh bien, merci pour cette stimulante soirée.
Merci à vous.
Bonjour, merci.
Peut-être une ultime intervention, très courte, s'il vous plaît.
C'était juste pour savoir si, je crois que les archives de Michel Ragon sont entrées, je ne sais pas si c'est entré à l'IMEC ou ailleurs.
Il y en a une partie aux archives de la critique d'art.
Une partie, mais pas tout. Se trouvent aux archives de la critique d'art. Elles y seront intégralement plus tard. Et une partie, mais pas tellement, à l'IMEC. Le reste ira aussi à l'IMEC. Mais c'est encore chez moi. ça va. Quand je peux encore penser et regarder, je les garde. Mais elles iront à l'IMEC.
De même que les archives de Nella Nobilis ou Ferrer sont à l'IMEC. Oui, elles sont conservées à l'IMEC.
Et donc encore tout un travail à faire. Eh bien, merci. Donc, nous vous, donc dans quelques jours, quelques semaines, cette soirée sera retransmise sur Canal U. Nous donnerons l'information sur le site d'entrevue. Et le 12 décembre, nous vous invitons dans ces lieux mêmes pour une soirée sur le surréalisme. Il est bien temps dans cette année 2024 avec beaucoup de célébrations, donc avec l'ami Jérôme Duva autour de Jean-Jacques Lebel. Oh. Merci et bonne fin de soirée à tous.